Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Dans cet épisode, je vous emmène en 1919 à Versailles, dans la magnifique Galerie des Glaces, pour découvrir les coulisses d'un traité international, un traité qui a changé la face du monde.
Au cœur de l'histoire.
L'Allemagne vaincue, humiliée, désarmée, amputée, condamnée à payer à la France pendant une génération au moins le tribut des réparations, semblait avoir tout perdu. Elle gardait l'essentiel, la puissance politique, génératrice de toutes les autres.
C'étaient les paroles presque prophétiques de Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français. Il s'exprimait alors sur le traité de Versailles, signé exactement il y a 100 ans, le 28 juin 1919. À l'époque, le président du Conseil regrette de ne pas avoir été suivi par les États-Unis et l'Angleterre, qui ont, selon lui, donné à l'Allemagne vaincue des conditions trop favorables. Mais cette signature a été le fruit de longues négociations. Nous allons y revenir. Elles permettent de mieux comprendre d'où vient le monde dans lequel nous vivons. Car le traité de Versailles a redécoupé les frontières de l'Europe. Il a mis en place des systèmes coloniaux renouvelés. Il est donc à l'origine de bien des conflits qui, aujourd'hui encore, déchirent la planète. Revenir sur le traité de Versailles, plonger dans cette histoire, c'est essayer de mieux comprendre notre géopolitique. Et je vous emmène dans la Galerie des Glaces au moment critique. Versailles, le 28 juin 1919. Il est 15h. La Galerie des Glaces et tout le château sont soudain silencieux. Président, Premier ministre, diplomate, tous portent leur regard vers l'entrée de la pièce, précisément à l'endroit où entre deux hommes que tout le monde attend. 27 délégations représentant 32 pays assistent à la scène. Le moment est solennel. Hermann Müller, le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, et Johannes Bell, le ministre des Transports, avancent depuis le fond de la salle. Ils sont venus signer le traité de paix qui mettra un terme à la Première Guerre mondiale. Ce moment est le résultat d'une mise en scène soignée. Les deux émissaires marchent lentement, escortés par une garde de soldats alliés. Tout est fait pour que les représentants allemands se sentent humiliés. Vaincus, que leur responsabilité dans le déclenchement du conflit soit enfin montrée au grand jour. Pour ce faire, les Allemands doivent passer devant une délégation de ce que l'on appelle les gueules cassées. Ces survivants qui présentent un visage dévasté par des blessures de guerre. Les regarder dans les yeux est une véritable épreuve, car ces visages incarnent à eux seuls les exactions de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Les deux hommes sont ainsi censés prendre conscience de la gravité des actes commis par leur pays. Ils sont venus signer ce traité sans avoir été invités à participer aux négociations. Certains diplomates oseront écrire plus tard qu'ils avaient l'air de prisonniers que l'on avait fait venir pour la lecture d'une sentence. Allez, pour bien vous faire sentir ce qu'éprouvait une personnalité de l'époque, on peut écouter les mots du conservateur du château de Versailles, Pierre de Nolhac. C'est lui qui est chargé d'accueillir la délégation allemande et de la mener jusqu'à la Galerie des Glaces.
À l'une des portes-fenêtres de la pièce, au-dessous du salon de la guerre, parurent les délégués allemands. Et nous eûmes à les conduire le long de ces jolies pièces où revivaient les portraits de notre histoire. C'était, pour quelques instants encore, l'ennemi qui passait et le vaincu. Et je voyais dans les yeux d'Hermann Müller se former des larmes qu'il ne pouvait dissimuler.
Bien sûr, le gouvernement avait donné des ordres pour que tout se joue dans la sobriété. Mais tout de même, on a sorti quelques-unes des belles collections du château. De magnifiques tapis de la savonnerie du règne de Louis XIV, on a aussi disposé spécialement pour l'occasion un bureau de style Louis XV, des collections du château, sur lequel est posé le fameux traité. Un encrier et son porte-plume en bronze doré y ont été posés. Ce bureau où va être signé le traité de Versailles, existe encore aujourd'hui. On peut le voir. Non loin de ce bureau est assis Georges Clemenceau. Il savoure cet instant symbolique. Quel bonheur, se dit-il, d'assister à cette scène dans la Galerie des Glaces, la même où en 1871, les Allemands, victorieux, avaient proclamé la naissance de leur empire après la terrible défaite française. Pour lui, il s'agit d'un événement digne d'un triomphe romain. On peut enfin laver l'affront qui avait été fait à la France et à l'Europe entière. Voilà pourquoi Georges Clemenceau a tellement soigné cette cérémonie. Avec ses équipes, il a choisi la date, le 28 juin. Là encore, le symbole est fort. Car c'est le 28 juin 1914 que l'archiduc François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo 5 ans plus tôt. Cet événement, véritable catalyseur, qui a déclenché la mécanique infernale de la Première Guerre mondiale. Dans la Galerie des Glaces, ce jour-là, un homme l'observe. Ce n'est pas n'importe qui. Il participe à la délégation britannique et s'appelle John Maynard Keynes. C'est un économiste qui, quelques années plus tard, va écrire un livre fondamental, Les conséquences économiques de la paix. Il est aux premières loges pour observer Clemenceau et il nous décrit son attitude ce jour-là.
Silencieux, ganté de gris sur son fauteuil tendu de brocart, l'âme sèche et vide d'espérance, très vieux et très fatigué, mais contemplant le spectacle d'un air cynique et presque malicieux.
Allez, admettons-le, la volonté de la France d'humilier l'Allemagne était palpable pour tous les témoins. Autour de la table des négociations étaient présents des chefs politiques, ceux des 4 grandes puissances qui sont considérés comme les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Il y a d'abord le président américain Woodrow Wilson, vient le premier ministre britannique David Lloyd George et l'italien Vittorio Emanuele Orlando. Avec la France, ce sont les principaux pays négociateurs. Petit point de mémoire, chacun se souvient que l'Allemagne a signé l'armistice à Rotonde le 11 novembre 1918, la fin de la Grande Guerre en somme. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de mettre fin au conflit. Il faut trouver la paix, c'est-à-dire poser les fondations d'un nouvel ordre européen. Or, en 1919, l'Europe est à feu et à sang. À cette époque, l'Allemagne connaît la révolution spartakiste et elle connaîtra d'autres insurrections d'extrême gauche. En Hongrie, les communistes s'approchent du pouvoir. Ces influences proviennent directement de la Russie, où la guerre civile déchire l'ancien empire. En 1919, en somme, le bolchevisme menace de nombreux pays européens. Il va aussi falloir composer avec l'effondrement des empires germaniques et austro-hongrois, ainsi qu'avec la ruine des Ottomans et de la Russie. Mais au-delà de ces aspects géopolitiques, le traité vise également à remettre sur pied l'économie européenne. Elle a été engloutie par l'effort de guerre. La majorité des populations sont menacées de pauvreté, de famine, voire d'épidémie. La grippe espagnole est là. Le 28 juin 1919, donc, pour les pays signataires, l'enjeu est de taille. C'est le moment où vont aboutir 6 mois de négociations difficiles. Elles ont eu lieu à Paris lors d'une conférence de la paix dont le rôle était de préparer précisément ce traité. À la fin de la cérémonie, qui a duré 50 minutes, Hermann Müller et Johannes Bell sortent les premiers de la Galerie des Glaces. Ils ont l'air dépités. Ils diront plus tard avoir été contraints d'accepter la signature. S'ils avaient refusé, leur pays, l'Allemagne, aurait été envahi par les armées françaises. C'est dire la lourde tâche qui d'emblée pèse sur ce traité. Pour comprendre ce qui vient de se nouer, il faut revenir sur les lignes de faille, les points de désaccord, tout ce qui a agité le long débat de préparation du texte. Au fond, qui doit être le leader de l'après-guerre? Comment faire en sorte que l'Allemagne paie un juste tribut pour ses dévastations, mais ne soit pas écrasée? D'ailleurs, quel serait ce juste tribut? Les vainqueurs eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord sur les territoires, ceux qui doivent accéder à la liberté et ceux qui, au contraire, doivent rester soumis. Où se trouvent donc les points d'accord et de désaccord entre ceux qui écrivent l'histoire? C'est le 18 janvier 1919 que commence donc à Paris, au Quai d'Orsay, la conférence de paix. Dès le début, les divergences entre les pays participants apparaissent. Clairement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, nul n'a les mêmes préoccupations. Georges Clemenceau, vous le devinez, veut être intraitable avec l'Allemagne. Selon lui, il faut qu'elle paye, au nom des 1 400 000 Français qui ont perdu la vie pendant le conflit et au nom des 5 millions de blessés. Comme il dira à plusieurs reprises pendant la conférence, l'Allemagne doit régler ses comptes. Le président du Conseil veut aussi que l'Alsace et la Lorraine, qui avaient été intégrées à l'Empire allemand depuis 1871, redeviennent françaises. Clemenceau cherche à imposer aux vaincus le paiement de lourdes indemnités pour réduire sa puissance économique et politique, et aussi, et surtout, pour financer la reconstruction de la France. Car il faut le dire, le pays a été ravagé par la guerre qui s'est déroulée sur son territoire. 500 kilomètres d'une ligne rouge où la terre ne pourra plus rien produire, où les arbres fruitiers ont été brûlés par l'ennemi, où les maisons ne tiennent plus debout. Tout cela doit être refait, doit être rendu aux Français. L'Allemagne doit payer. Il souhaite aussi que la région de la Sarre, connue pour ses riches gisements de charbon, revienne à la France. Comme un mal dont il faudrait organiser l'éradication, Clemenceau veut tout faire pour que l'Allemagne ne puisse jamais prendre sa revanche. Pour lui, c'est une façon d'assurer la sécurité de la France face à un ennemi dont la logique expansionniste reste et restera toujours dangereuse. Cette ligne dure ne fait évidemment pas l'unanimité auprès des trois autres puissances. Pour les Britanniques, par exemple, ils craignent que la France ne profite de sa position de vainqueur pour obtenir des faveurs excessives des autres pays. Ils pensent que Georges Clemenceau n'est animé que par un désir de vengeance, voire un désir d'hégémonie. Les Britanniques veulent surtout garder l'équilibre entre les pays. Pas question de laisser une puissance européenne s'imposer sur le continent. Elle risquerait d'être un problème pour l'invincible Albion. Le président Wilson cherche à imposer une autre vision. Il voit dans le traité de Versailles une occasion inespérée de faire adopter un nouvel ordre mondial. Il faut changer la donne et permettre aux peuples de disposer d'eux-mêmes. Ce qu'il veut signer, avant tout, c'est, pour reprendre ses termes, une paix sans victoire. Son idée est de promouvoir une logique d'apaisement, fondée sur une morale internationale. Cette nouvelle politique, Wilson en a exposé les grands principes devant le Congrès des États-Unis, le 8 janvier 1918, quelques jours avant. Là, il a prononcé un discours resté dans l'histoire sous le nom des 14 points de Wilson. Voici quelques exemples empruntés à ce texte.
Au peuple d'Autriche-Hongrie, dont nous désirons voir sauvegarder et assurer la place parmi les nations, devra être accordée au plus tôt la possibilité d'un développement autonome. Aux régions turques de l'Empire ottoman actuel devrait être assurée la souveraineté et la sécurité. Mais aux autres nations, qui sont maintenant sous la domination turque, on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d'une façon autonome. Une association générale des nations doit être constituée sous des alliances spécifiques ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands États.
L'idée principale de ce texte, vous vous en souvenez, c'est le principe d'autodétermination des peuples et donc d'adéquation avec des territoires. On considérera d'ailleurs plus tard que ce texte pose les bases de l'anticolonialisme. Mais en le regardant de plus près et en le remettant dans son contexte, on s'aperçoit qu'en réalité, Wilson parle davantage des populations allemandes et austro-hongroises que des Africains ou des Asiatiques. Voilà pourquoi sa priorité, ce sont les restitutions des territoires pris à la France, comme l'Alsace et la Lorraine, la création d'un État polonais indépendant, ainsi que l'évacuation de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, se profile ce que sera bientôt la Yougoslavie. Mais pour lui, cette libération des peuples passe par la création d'une entité supranationale, la fameuse Société des Nations. Les objectifs d'une telle structure seraient un contrat de libre-échange, de manière à prévenir la guerre à travers un principe de sécurité collective. Les conflits seraient discutés par l'ensemble des États et l'on verrait alors qui est dans son droit. À cette époque, Wilson est le président d'une puissance économique déjà sans égale. Il est très populaire. S'imposer face aux pays européens complètement ruinés par la guerre, ne devrait pas être si difficile. Contrairement à la France, Wilson cherche à ménager l'Allemagne pour éviter qu'elle ne cherche un jour sa revanche, mais surtout pour en faire un allié économique. Pourtant, il va être difficile de faire accepter son programme par les autres pays vainqueurs. Wilson fait face à des réticences féroces, à commencer par celle de Clemenceau, qui estime que le président américain est bien loin des réalités européennes. En 1929, dans son ouvrage « Grandeur et misère d'une victoire », voici comment le président du Conseil français, Clemenceau, évoque avec ironie le programme de Wilson.
Le président Wilson nous avait apporté ses 14 points. Dieu n'en avait que 10. Il se prenait pour un second messie, un prophète inspiré d'une noble entreprise d'idéologie dont il allait fâcheusement devenir le prisonnier, connaissant insuffisant cette Europe qui gisait en morceaux devant lui. Il fit de son mieux, en des circonstances qui lui avaient échappé et dont les développements extérieurs se trouvaient en dehors de son champ de vision.
Cette opinion est partagée par le Britannique Lloyd George. Wilson est perçu comme un idéaliste, ignorant les problèmes contemporains de l'Europe. De semaine en semaine, de mois en mois, les désaccords s'amplifient. Parfois, ils divisent un même pays. En France, par exemple, des personnalités politiques comme le président de la République, Raymond Poincaré, souhaitent aller au-delà de la ligne de Clemenceau. Poincaré préconise que la rive gauche du Rhin devienne entièrement française. Au bout de 6 mois, de 52 commissions techniques qui ont nécessité le travail de plus de 1600 experts, on parvient enfin à un accord. Mais au fait, vous vous souvenez, vous, de ce que contient le traité? Vous vous souvenez des points qui ont été retenus? Bien, pour se rafraîchir la mémoire, on va regarder le traité tel que ceux qui en sont, peut-être les principales victimes, ont pu le regarder, les Allemands. Car l'Allemagne est l'objet de très nombreux remaniements. Elle est amputée de 15% de son territoire. L'Alsace et la Lorraine, par exemple, sont restituées à la France. Mais s'ajoute aussi une démilitarisation. L'Allemagne se voit contrainte de livrer au pays vainqueur ses 5000 canons, ses 25 000 avions ainsi que sa flotte. Son réarmement est strictement limité. Elle n'a plus le droit de posséder de blindés, ni d'artillerie, ni de forces aériennes. Son armée est limitée à un effectif de 100 000 hommes et, évidemment, le service militaire est aboli. Ensuite, le pays doit rembourser les dégâts causés pendant la guerre car il est considéré comme responsable du déclenchement du conflit. Les Allemands devront donc payer 132 milliards de marques or aux Alliés. Contrairement aux souhaits de Clemenceau, la Sarre et ses gisements de charbon ne deviennent pas français. Ils sont placés sous administration internationale pour 15 ans et ensuite, ils seront soumis au référendum. Mais les sanctions à l'encontre du vaincu ne s'arrêtent pas là. Il est forcé de renoncer à son empire colonial. D'autres pays reçoivent mandat de gérer ses colonies. La France annexe ainsi le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique reçoit le Rwanda et le Burundi. Le Royaume-Uni, lui, s'empare de la Tanzanie, tandis que l'Afrique du Sud devra gérer la Namibie. Mais le traité crée aussi de nouveaux États. D'immenses territoires qui se trouvaient dans l'est de l'Allemagne sont attribués à un nouvel État polonais. Le découpage ne va pas sans problème, car la Pologne veut un accès à la mer. Pour lui donner, on crée donc un corridor qui sépare la Prusse orientale de l'Allemagne. On imagine déjà les revendications nationalistes qui vont fleurir. D'autres pays sont créés, comme la Tchécoslovaquie, arrachée à l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Autriche est transformée en un petit pays, mais dont l'indépendance doit être garantie car une clause du traité stipule que l'Allemagne a une interdiction formelle de l'annexer. Parmi tous ces points, beaucoup proviennent des propositions du président américain Wilson. Ce dernier est même parvenu à faire accepter la création de la Société des Nations qui verra le jour en janvier 1920. Mais sur le plan intérieur, les choses sont beaucoup plus compliquées. Toute une aile politique américaine est persuadée que les sanctions brutales contre l'Allemagne risquent de relancer la guerre. Alors bien sûr, le traité est plus dur que ce que souhaitait le président américain. Mais Wilson a pris des engagements vis-à-vis de ses alliés et les États-Unis doivent s'engager à leur côté. Malgré cela, après la signature du traité le 28 juin 1919, le Congrès américain refuse de le ratifier. Les États-Unis eux-mêmes se retirent de la Société des Nations, un organisme qu'ils avaient imaginé et qui devait vraiment faire que la Première Guerre mondiale soit la der des der. C'est un échec retentissant pour la diplomatie américaine, mais plus grave encore. Le traité va avoir de terribles conséquences qui vont à l'encontre de ses principes initiaux. Il va nourrir chez les Allemands un véritable ressentiment. À Munich, à Francfort, à Berlin, à Nuremberg, à des centaines de kilomètres de Versailles, de l'autre côté du Rhin, ces sanctions sont extrêmement mal vécues. Beaucoup d'Allemands estiment qu'un traité doit être consenti et éclairé par les deux parties. Or, ce sont les Alliés qui ont forcé les Allemands à signer et qui ont abrégé les négociations sans leur permettre d'y participer. C'est donc, tout simplement, un diktat. On a dicté à l'Allemagne ces conditions et ceci est insupportable. Le mot diktat devient une sorte de leitmotiv dans la politique allemande. La société tout entière rumine des sentiments d'injustice, de frustration et de revanche. Pendant l'entre-deux-guerres, critiquer le traité de Versailles est monnaie courante. On publie des articles, des essais juridiques, on distribue des tracts, on écrit des affiches, des articles de presse et même des romans. Tout est bon pour dénoncer ce traité de Versailles qui est considéré comme la base des souffrances allemandes. Le terreau est fertile pour l'affirmation du national-socialisme, c'est-à-dire d'un nationalisme qui prône l'unification de toutes les classes sociales en se lançant dans le racisme et l'humiliation des races adverses. Rappelez-vous, c'est un des thèmes de départ de la politique d'Adolf Hitler. S'opposer au traité de Versailles, rejeter l'humiliation subie par son pays. C'est ainsi que, en 1933, secrètement, Hitler ose bafouer systématiquement, pas à pas, quand il arrive au pouvoir, le traité qu'il déteste tant. Il commence en octobre de la même année, quand il se retire de la Société des Nations. Ensuite, il décide que les effectifs de l'armée passeront de 100 000 à 300 000 hommes, deuxième affront, direct, au traité de Versailles. Mais ce n'est pas fini. Il va continuer et réarmer la rive gauche du Rhin. Il va ensuite se permettre de remilitariser l'Allemagne en 1936 et encore en 1938 faire l'Anschluss avant de s'en prendre à la Tchécoslovaquie. Pas à pas, Hitler a défait tous les points du traité de Versailles qui devaient juguler la puissance militaire allemande. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie ont eu beau se réunir en 1935 à Stresa pour essayer de contrer les premières violations du traité, mais rien n'y a fait. Évidemment, l'histoire retiendra leur échec à la conférence de Munich en 1938. Bientôt, l'Europe tombera dans les années sombres, celles qui commencent en septembre 1939, quand, dernier pas encore contre le traité de Versailles, Hitler lancera l'offensive contre la Pologne, envahie en quelques semaines. Bien sûr, le traité de Versailles n'explique pas à lui seul l'éclatement du second conflit mondial. Mais il était au cœur de l'idéologie nationale-socialiste et des croyances allemandes. La preuve, au procès de Nuremberg, en 1945, Constantin von Neurath, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Hitler, a directement évoqué le traité.
Il faut chercher dans les stipulations insensées et impossibles du traité de Versailles, qui ont eu pour effet d'amener le désordre dans l'économie du monde entier, les racines du national-socialisme et également les origines de la Deuxième Guerre mondiale. Un si grand peuple que les Allemands, qui avaient le sens de l'honneur, se trouvaient mis en état d'infériorité par le traité de Versailles. Ils ne pouvaient le tolérer plus longtemps. Tout homme d'État avisé devait le reconnaître. Non seulement en Allemagne, mais même à l'étranger. Bien des gens disaient que tout cela finirait mal. Mais à Genève, le rendez-vous des politiciens éloquents et vaniteux, on ne tenait aucun compte de ces discours.
Il y avait donc, dans le traité de Versailles, des conséquences perverses. Par exemple, les populations de langue allemande étaient divisées par le traité entre plusieurs territoires. Certaines étaient installées dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie. D'autres se retrouvaient dans la partie polonaise. Bref, on pouvait déjà deviner qu'à terme, il y aurait des revendications d'unité pour ces minorités qui avaient été séparées. En fait, le traité, en tentant de reconstruire une Europe, avait lui aussi gelé des situations qui risquaient à terme d'amener à du nationalisme exacerbé. Ce fut le cas, par exemple, en ex-Yougoslavie. Ce pays, né grâce au traité de Versailles, allait bientôt, après l'effondrement de l'Union soviétique, connaître le déchirement des revendications d'indépendance. En somme, le traité de Versailles n'était pas parfait. Évidemment, il a permis à certains peuples de découvrir l'autodétermination, de découvrir des principes de politique démocratique. Mais il a aussi, en humiliant certains pays et en créant des zones d'ombre et des tensions sur des zones comme l'Istrie, par exemple, revendiquées par l'Italie et l'Autriche, il a créé les conditions pour que de nouvelles revendications nationalistes apparaissent. En regardant à plus grande distance, le traité de Versailles apparaît comme un des événements cruciaux du XXe siècle. Mais disons-le, cet événement n'explique pas tout. Allez, faisons un petit peu d'histoire-fiction. Si l'on avait donné raison à Clémenceau, si l'on avait livré l'Allemagne pieds et poings liés à la domination française, à terme, fatalement, son nationalisme se serait réveillé et l'on aurait eu, tôt ou tard, un second conflit mondial. Suivons maintenant la deuxième hypothèse. Si l'on avait entièrement donné raison à Woodrow Wilson, accordé des conditions économiques favorables à l'Allemagne, limité son dépeçage. À terme pourtant, les identités malléables, les croyances politiques seraient revenues. Et de nouveau, l'Europe aurait sombré dans le chaos. Au fond, ce que nous apprend le traité de Versailles, c'est que les compromis ne peuvent valoir que pour un temps et qu'il n'existe pas de paix durable sans volonté ni confiance entre les protagonistes de l'histoire. Un mot pour remercier une auditrice, Claire Munier-Paulet, de l'American University of Paris. C'est elle qui m'a suggéré de faire ce sujet sur le traité de Versailles. Vous pouvez évidemment réécouter ce podcast et en découvrir beaucoup d'autres sur notre plateforme ainsi que vos plateformes d'écoute habituelles et évidemment m'envoyer des suggestions. Alors je vous dis à bientôt.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Christophe Daviau.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.